Vous écoutez France Musique.
Merci Thierry Beauvert, passez un très bon dimanche soir et à la semaine prochaine.
Oui, notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti. Notre parti, parti d'Henri. Oui, c'est le parti de tous ceux qui n'ont pas pris le parti.
Nous avons pris le parti de prendre la tête d'un parti.
Moi j'aime pas les types de mon âge qui disent j'aime les jeunes.
La difficulté de devenir soi-même prend un sens concret et même parfois très violent.
Enfin, c'est impossible. Le tennis, c'est pas ça.
Bonsoir, bienvenue à toutes et bienvenue à vous tous. Bienvenue dans Le Parti d'en jouer, amis fidèles des ondes hertziennes placées sous le signe de la jeunesse et de l'imaginaire. C'est l'émission dominicale anti « Sois jeune, joue et tais-toi » puisque ce qui nous intéresse, c'est précisément l'univers et la trajectoire des musiciens, leur imaginaire, leur passion, leur sensibilité. Et ce soir, je reçois un violoniste qui ne déroge pas à la règle de « J'ai quitté la maison pour mon violon, j'avais alors 16 ans et je suis parti seul vivre à 20 000 km de chez moi », lors même que ma famille, avec qui je joue d'habitude, est un élément très important. Mais ce soir, la partie se joue à deux, grâce au violoniste Romuald Grimbert-Barré. C'est le parti d'en jouer. Bienvenue à lui, bienvenue à vous. Bienvenue à vous, Romuald Grimbert-Barré, bienvenue dans le Parti d'en jouer, bonsoir.
Bonsoir Edouard.
Comment allez-vous?
Très très bien, bah, merci de m'inviter, ce soir ça fait très plaisir de prendre la parole.
Tout le plaisir est partagé. Alors je disais 20 000 km, mais c'est n'importe quoi, non? Parce que les États-Unis, ce n'est jamais qu'à 8 000 km de la France, c'est ça?
Exactement. Oui, non mais c'est bon, après, pour certains, que ce soit 8 000, 10 000, bon, de toute façon ça reste très loin.
Est-ce que dans le ressenti, ça paraît très loin quand on y est? Loin de ses racines, loin de sa famille.
Alors, bah, les États-Unis, vu que ça reste quand même occidental dans la culture, je pense que c'est moins délicat que, bien sûr, dans certains pays d'Asie et tout ça, qui sont pourtant aussi loin. Mais effectivement, bon, quand on a 16 ans, voilà, et quand on a l'habitude d'être constamment avec sa famille, et vu que j'ai beaucoup de frères et sœurs et qu'on joue ensemble depuis très jeune, c'est sûr que ça fait une grosse différence. Mais en même temps, ça m'a fait beaucoup de bien, parce que vraiment, j'ai appris à être assez indépendant, à devoir me débrouiller seul, à gérer, voilà, que ce soit la vie sur place et la langue et tout. Donc, c'était quand même une très grande expérience.
Alors, est-ce que ça a changé quelque chose pour la famille que vous avez laissée? C'est-à-dire qu'on va, revenir, bien sûr, sur cet aspect, parce que ça fait vraiment partie de vous.
Oui.
Beaucoup de frères et sœurs musiciens. Mmh. Mais est-ce que vous avez l'impression que ça a changé des choses pour vous, mais aussi pour vos frères et sœurs?
Je pense, oui, parce que ça a quand même duré 5 ans. J'avais 16 ans. Comme je vous disais, on avait l'habitude de se produire en concert, moi, depuis mes 10 ans. Et on jouait quand même pas mal de fois par mois. Et alors forcément, ça fait un trou par rapport au concert. Et donc ça a dû être un peu plus délicat pour eux, parce que moi j'y suis allé quand même pour mes études et voilà, j'ai découvert un nouvel univers, je fais plein de rencontres et j'ai travaillé à fond mon violon. Voilà, donc c'est vrai que ça a été un peu plus dur pour eux, je pense. Mais bon, ils ont chacun suivi leur chemin et ce qui fait que ça a été encore plus un plaisir de se retrouver après.
Alors à 16 ans, vous partez. À quel âge saviez-vous que vous vouliez vraiment faire du violon votre vie?
Je pense que c'était vers mes 9 ans, 9-10 ans. 9-10 ans, en fait, je faisais déjà les cours par correspondance. Enfin, c'est à peu près à ce moment-là que j'ai commencé, justement parce que j'ai eu le désir d'en faire très sérieusement. Oui. Alors, j'ai été influencé par mes frères et toute ma vie, en fait, enfin, jusqu'à maintenant. Comme on est très unis, voilà, comme un de mes frères a commencé cours par correspondance quand j'avais 7 ans, par exemple, moi et mes frères, ceux un peu plus jeunes, ont tous voulu faire la même chose et... Donc on s'y est mis assez jeune, hein, au final. C'était assez important parce qu'on vivait à Chartres. Et pour pouvoir prendre des cours avec des professeurs assez renommés à Paris, tout ça, il fallait pouvoir se déplacer et être dans le conservatoire. Et voilà, donc c'était important vu qu'il n'y avait à cette époque-là pas de classe vraiment appropriée dans notre petite ville qui nous a préparé initialement à la musique aussi.
Alors, on va revenir justement sur votre parcours, Romuald Grimbert-Barré. Un grand merci à vous d'être avec nous dans le Parti d'en jouer, qu'on ouvre avec votre professeur à Bloomington, le grand Maurizio Fuchs, ancien élève de Yascha Heifetz, et c'est dans le concerto de Korngold, Heifetz.
Thank you.
Quelle musique, très décriée, un peu méprisée, très franchement. La romance au deuxième mouvement du concerto pour violon de Erich Wolfgang Korngold, l'opus 35, avec le Philharmonique de Los Angeles, Alfred Wallenstein, 1953. Et surtout, pour ouvrir votre partie d'en jouer, Romuald Grimbert-Barré, Yasha Heifetz. Magnifique musique, dénigrée, je disais, parce qu'à l'époque, on parlait de ce concerto comme un concerto d'Hollywood ou concerto Hollywood pour dire c'est que de la musiquette de film. Mais ce qui est intéressant, c'est que on va revenir justement sur la personnalité de Maurizio Fuchs, qui a été élève notamment de Heifetz, qui a été votre professeur à Bloomington aux États-Unis, mais aussi sur Korngold, qui est un enfant prodige, qui a toujours eu la nostalgie de la Vienne qu'il connaissait, de la Vienne Jugendstil, Art Nouveau, etc., qui lui aussi est parti, et c'est un peu le syndrome Zweig, quoi. C'est-à-dire que toujours la nostalgie de ce qu'on a laissé derrière soi, son pays, ses amis, ses racines. Donc vous arrivez à 16 ans à Bloomington. Comment vous y arrivez ?
Ça a été très compliqué, hein, au début, parce que, voilà, comme j'avais 16 ans et que c'était une université, il fallait avoir fini ses études de lycée.
Donc avoir son bac. Hein.
Exactement. Et il fallait déjà maîtriser pas mal la langue, parce qu'ils ont un examen qui s'appelle le TOEFL, qui est obligatoire dans pas mal d'écoles aujourd'hui, et qui est assez poussé. Enfin, ça demandait beaucoup de travail aussi. Ce qui m'a vraiment porté, hein, c'est la rencontre avec Maurizio Fuchs en France, un peu par hasard, quand j'avais 15 ans, et c'était durant un stage qu'il fait chaque année là-bas, à Villefavard, c'est dans le sud. Et il y a eu comme un coup de foudre, parce que c'est un professeur qui a une telle personnalité, qui a une telle exigence aussi, et qui est vraiment un pédagogue, comme on en rencontre très peu. Et donc de le rencontrer dans cette atmosphère, c'était un peu de campagne durant l'été, avec pas mal de ses élèves qui étaient déjà sur place. Et ce qui est impressionnant, c'est de penser à ce qu'ils sont devenus, certains d'entre eux. Là, il y en a un qui vient d'être nommé violon solo de Philharmonie de Berlin, que j'ai rencontré là-bas et que Maurizio Fuchs a totalement formé. Noah Bendix s'appelle. Et donc, ce professeur, j'avais 15 ans, j'étais encore jamais vraiment allé aux USA. Et comme je voulais vraiment travailler avec lui, je lui ai demandé comment ça pouvait fonctionner, vu que je faisais les cours par correspondance. En plus, j'avais pris beaucoup de retard parce que, faut envoyer des devoirs toutes les deux semaines. Et j'étais, je vous avoue, pas forcément très assidu.
Mais vous avez votre bac à 16 ans.
Oui, voilà. Mais parce que justement, je voulais partir à Bloomington et que ce professeur m'a conseillé d'y aller tout de suite parce que j'avais aussi l'option de rester à Paris et d'aller au CNSM et de suivre le cursus plus habituel. Et il m'a vraiment incité à y aller directement. Et ce qui, je pense, était le mieux parce que c'est un professeur qui fait travailler vraiment de A à Z l'instrument. Et j'ai eu l'impression de réapprendre totalement. Mais c'était un peu dur parce que j'avais déjà un certain niveau. Je voulais jouer le plus possible et de devoir reprendre les gammes, toutes les études de Kreutzer, Schradieck, par lesquelles j'étais déjà passé, mais pas avec autant de profondeur. C'est vrai que c'était un choc. Et donc, ça a été très dur aussi. Hein. Et voilà. Et donc, pour pouvoir y aller, j'ai dû avoir une dérogation. J'ai dû passer le bac en candidat libre et j'ai passé même les deux bacs français et celui terminal pour y aller dès l'année suivante. Et en plus de ça, tout ce qui est visa, ça, c'est toujours très compliqué. Voilà.
Mais qui sont-ils ces gens qui s'en fichent des autres ? En réalité, Michael Jackson sur France Musique dans le Parti d'Anjou et de Romuald Grimbert-Barré.
Waouh ! C'est un contraste assez saisissant.
Oui, hein, enfin, super, ouais, ça mais... dépend.
Non, mais j'étais vraiment fan de Michael Jackson, enfin, surtout jusqu'à mes 7-8 ans. Mais je veux dire, même aujourd'hui, j'en écoute très régulièrement chez moi. Mais c'est vrai qu'avant de vouloir devenir violoniste, je voulais être Michael Jackson. Voilà.
Alors, est-ce que la queue de cheval, parce que je le dis pour les auditeurs qui n'auraient pas l'image, hein, l'image avec la radio, est-ce que ça, c'est une réminiscence stigmate de Michael Jackson, pas conscient ou inconscient ?
C'est ça, peut-être inconsciemment, effectivement. Mais en tout cas, quand j'étais jeune, oui, c'était vraiment en pensant à Michael Jackson que j'aimais garder cette coiffure. Et même, c'était pas que la coiffure, hein, c'était sa façon de danser, ses habits, enfin, c'était tout. Non, j'étais vraiment fan. Et c'est marrant de réécouter ça aujourd'hui parce que, bon, à l'époque, je ne parlais pas du tout anglais et je ne comprenais pas ce que voulaient dire ces paroles. Et voilà, j'ai l'impression de redécouvrir complètement ces chansons voilà, après avoir passé 5 ans aux USA.
Et rencontrer Quincy Jones, un des grands arrangeurs aussi, oui, de Michael Jackson. Et ça, c'est un peu le modèle un peu à l'américaine, Bloomington, parce que vous arrivez, on a l'impression que c'est génial. Il y a Menahem Pressler, il y a Noche Tarker avec qui vous avez l'occasion de travailler de manière un peu éphémère et tout ça. Et puis Quincy Jones, voilà, qui vient faire une espèce de conférence.
Oui, ben c'est ça qui est impressionnant. Enfin, ils ont des moyens énormes. Bon, après, il faut savoir que Bloomington, c'est une très grande université. Il y a 45 000 étudiants dans le campus. Il y a des salles de 3 000, une autre de 2 000 places. Une autre de... Enfin, il y a plein de moyens et même un stade de 60 000 places. Donc, je veux dire, ils font venir des stars assez régulièrement. Et Quincy Jones était venu pour recevoir un prix honorifique, je crois que c'est un doctorat, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer après une de ses conférences. Alors c'est vrai que c'était dur de l'approcher et c'est le directeur de l'université qui m'a proposé de le voir parce qu'on se connaissait déjà un petit peu. Et voilà, mais on a discuté un peu et il m'a dit, Quincy Jones en français, qu'il avait étudié avec Nadia Boulanger quand il était jeune, pendant 5 ans quand même. Et ce qui est assez impressionnant, parce que voilà, des gens qui viennent de tous les domaines, tous les styles musicaux, voilà, sont passés par Nadia Boulanger qui a influencé pas mal de vies.
Alors, on va revenir un petit peu sur ce système à l'américaine, parce que vous l'avez vécu de l'intérieur. Mais juste avant cela, est-ce que quand vous partez à 16 ans, vous êtes mis en garde sur cette idée, cette hypothèse que partir de France, c'est primo ne jamais y revenir ? Ou si on y revient, être tellement oublié qu'en fait, plus personne ne fait appel à vous. Donc, cette prise de risque, est-ce qu'on en est conscient ? Est-ce qu'elle est réelle aujourd'hui ? On y reviendra peut-être un petit peu plus tard. Qu'est-ce que vous en pensez, Romuald ?
Oui, c'est un risque réel, vraiment. Quand je suis parti, je vous avoue que je n'avais pas vraiment l'intention de revenir en France. C'est vrai que j'étais jeune et les États-Unis apparaissaient tellement comme un rêve que c'est vraiment au bout de 2-3 ans sur place que ma famille m'a un peu manqué, que j'ai... Enfin, je faisais quand même des allers-retours régulièrement. Alors, j'ai vu que je ne connaissais pas grand-chose de l'Europe et de la France, au final, parce que j'étais parti, voilà, à 16 ans. Comme je faisais cours par correspondance, je passais mon temps à travailler mon violon chez moi. Et voilà, donc ça a commencé à me manquer. Et effectivement, à mon retour, je n'étais pas sûr de rester à Paris, parce que je me disais que ça pourrait être très difficile. Et bon, j'ai eu la chance de rester en contact avec quand même certains amis et... Surtout avec deux personnes, et ces deux amis, l'un s'appelle Jean-Baptiste Agessi, et l'autre Marcelin Borsarello, et ces deux amis m'ont vraiment aidé à mon retour, c'est-à-dire Jean-Baptiste m'a proposé de faire de la musique de chambre au CNSM avec Marc Copé, et ce que j'ai tout de suite accepté, et Marcelin Borsarello m'a proposé un poste d'enseignant tout près de chez moi, ce qui fait que voilà, j'avais tout de suite une source de stabilité financière. Et voilà, j'avais un lieu où me refaire un réseau au final, au CNSM de Paris. Et vraiment, ça s'est très bien passé rapidement parce que voilà, avec mon groupe de musique de chambre, c'était du quatuor. On a tout de suite eu pas mal de concerts et au final, je me suis senti un peu surbooké, comme on dirait, parce que je n'avais pas l'habitude d'une vie aussi active. Parce que Bloomington, bon, c'est un endroit assez isolé et qui était idéal pour les études et pour travailler. Mais voilà,
et quand on revient, il faut travailler.
Voilà, il faut travailler, mais surtout voilà, quand on a des concerts avec des programmes très différents à effectuer. Bon, j'ai commencé voilà, ma vie active en rentrant. Ce qui fait que je suis resté et j'adore être à Paris. Et c'est vrai que je n'ai pas l'intention de partie. Hein.
Alors dans les rencontres, on va parler aussi de la grande pédagogue hein, Suzanne Gessner, mais il a une rencontre, je crois, vers 8-9 ans, c'est Laurent Corsia.
Thank you.
Quelle musique absolument géniale, la troisième sonate de Georges Enesco, 1926, par Laurent Corsia et Georges Pludermacher au piano. Avec vous, Romuald Grimbert-Barré, dans le Parti d'en jouer. Laurent Corsia, c'est une rencontre quand vous avez 9 ans, qui vous a aussi beaucoup influencé. C'est le moment où vous rêviez d'être Michael Jackson. Et c'est vrai que, alors, cette musique-là, jouée par Laurent Corsia, mais aussi à avoir avec des origines, puisqu'on va y revenir un petit peu. Vous avez une maman qui est d'origine antillaise et un papa qui est d'origine juive roumaine.
Exactement, et c'est peut-être aussi pour ça que cette musique me touche plus profondément même. C'est effectivement partie de mon identité. Et Laurent Corsia m'a beaucoup influencé, alors que finalement, je ne l'ai pas connu tant que ça. Je veux dire, j'ai fait un stage avec lui, un peu par hasard, quand j'avais 8-9 ans. Et à ce moment-là, j'habitais encore à Chartres. Et je ne sais même plus si je faisais déjà les cours par correspondance, peut-être même pas. Et il m'a proposé à la fin de ce stage de me faire travailler, en fait. Et je ne m'y attendais pas du tout, parce que j'avais l'impression qu'il ne m'appréciait pas. Et c'était la première fois que j'avais un professeur qui était extrêmement exigeant, qui ne faisait pas de compliments voilà, du tout. Et c'est vrai qu'après, voilà, j'ai pu aller à Paris, et c'est ce qui m'a ouvert des portes aussi, parce que je n'étais jamais parti de Chartres pour travailler mon violon. Alors, c'est pour ça que c'était aussi très influent, voilà, parce que j'ai quitté ma ville pour prendre des cours, ce qui m'a amené ensuite vers voilà, Suzanne Gessner et Christophe Poiget, avec lequel j'ai étudié
à Boulogne.
Voilà, à Boulogne pendant 5 ans, jusqu'à ce que je parte aux USA au final.
Alors, Romuald Grimbert-Barré, là, c'est quand même la famille, parce que, donc, une mère antillaise, un père d'origine juive roumaine, qui est médecin.
Oui.
Qui rencontre votre maman quand elle a 29 ans, 20 ans.
Voilà, à peu près.
Qui était venue pour faire des études de musique.
Exactement, des études de piano et de musicologie. Et ils se sont rencontrés un peu par hasard, parce que mon père remplaçait le médecin qui allait voir ma mère. Et c'est vrai que ma mère a commencé à avoir des enfants assez rapidement, hein, dès ses 22 ans. Ce qui fait qu'elle a passé quand même la plus grande partie de son temps à s'occuper de nous, parce qu'elle a quand même eu 6 enfants.
Hein. Et ça veut dire donner aussi des cours de piano à tout le monde, c'est ça?
Alors, elle nous a initiés au piano, effectivement. Moi, je n'ai pas été très assidu. Enfin, c'était un peu compliqué. J'étais un peu rebelle. Je le suis toujours un peu, hein, en fait. C'est un peu mon tempérament. Et donc j'avais commencé effectivement par le piano, mais comme j'aimais pas qu'elle me donne des conseils, voilà, au bout de 2 ans j'arrêtais, et après je reprenais, enfin ça n'a jamais été vraiment constant. Enfin, plusieurs de mes frères ont été beaucoup plus sérieux avec ça. Mais je veux dire, elle nous a jamais forcé à faire de la musique, et c'est ce qui peut paraître étonnant, parce qu'on est tous musiciens dans la famille, enfin l'aîné maintenant.
Donc vous avez 4 frères, 1 sœur.
Oui, exactement. Et l'aîné est comédien, entrepreneur et tout ça maintenant. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai voulu faire du violon assez tôt. Et mes parents n'ont pas réagi parce que tous mes autres frères avaient fait un peu de violon auparavant. Et c'est au bout d'un an, il paraît que je réclamais tous les jours un violon. Et voilà, c'est après tant de réclamations qu'ils ont accepté de m'offrir pour mes 5 ans mon premier violon. Et voilà, je suis le seul qui n'ait jamais guitté. Enfin, je veux dire, après, les autres faisaient bien sûr un autre instrument.
Et là, vous jouez avec vos frères et sœurs, mais surtout sur une musique de votre grand-père qui s'appelait Amédée
Barré.
Barré.
Exactement.
Qui était-il?
Alors, lui était greffier en Guadeloupe et il faisait de la musique de manière, pour le plaisir, en amateur. Et il a composé beaucoup de chansons créoles. Avec mes frères, alors j'ai 3 de mes frères qui sont compositeurs, Maxence, Jonathan et Stanislas. Alors c'est vrai qu'on a retrouvé des enregistrements et des partitions des chansons qu'il avait composées. Et mes frères, voilà, on fait des arrangements pour notre ensemble, parce qu'on est l'ensemble Grimbert-Barré. Et on a quand même une dizaine de chansons créoles qu'on aime jouer à la fin de nos concerts. Et c'est vrai que ça... Voilà, on y inclut la batterie et toute la famille. Et c'est vrai que ça plaît beaucoup au public en général, parce que ça, c'est très dansant. Là, c'est Reviens-moi, la chanson qu'on vient d'entendre. Et c'est plutôt calme. On a aussi des begins, quand même des chansons qui sont très envolées, voilà, qu'on joue régulièrement.
Et alors, on va aborder maintenant un aspect donc, de la Guadeloupe, parce que vous y êtes allé, mais pas si souvent que cela.
Non.
Mais notamment pour jouer un compositeur qui vous est très cher. C'est le Chevalier Saint-Georges. Hans Liviabella au violon et l'orchestre de la Suisse italienne dans un des concertos pour violon du Chevalier de Saint-Georges que vous avez joué lors d'un de vos voyages, plusieurs voyages, je crois, 2-3, Romuald Grimbert-Barré en Guadeloupe. Alors c'est un personnage qui est évidemment très très intéressant, qui a été beaucoup étudié, je crois, par Alain Guédet.
Exactement.
Directeur d'une association, je crois.
Qui s'appelle les concerts de Monsieur de Saint-Georges. Voilà, c'est quelqu'un qui milite depuis longtemps... pour qu'on découvre ce compositeur vraiment atypique, qui a une vie vraiment impressionnante, parce qu'en fait, voilà, il est d'origine des Antilles, de Guadeloupe, et il est fils d'esclaves. Son père était noble, et ce qui fait qu'il a une éducation voilà, dont avaient droit seulement les Blancs à cette époque-là. Et c'était un musicien hors pair, violoniste virtuose et un escrimeur aussi extraordinaire.
Et voilà, ami Marie-Antoinette.
Exactement, et il a vraiment marqué son époque et on l'a complètement oublié par la suite, alors qu'il mériterait... Et
ça, c'est Napoléon, ça.
On pense voilà, que c'est... Quand Napoléon a rétabli l'esclavage, voilà, il a fait en sorte de camoufler le plus possible. On pense qu'il a même brûlé des documents qui parlaient de Saint-Georges et certaines de ses partitions, parce que voilà, c'était pas bien de montrer qu'un homme de couleur avait... réussi dans la cour de France à cette époque-là, au XVIIIe siècle. Je veux dire, c'est dommage et je trouve que, oui, sa musique mériterait d'être jouée beaucoup plus. Et voilà, c'est la musique très pétillante qui peut faire penser à Locatelli dans le style voilà, violinistique. Et bon, c'est l'époque classique, très mozartienne. Voilà, il a laissé pas mal de concertos qui avaient énormément de succès à l'époque. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ça mériterait d'être joué.
Il y a aussi des quatuors.
Beaucoup de quatuors, très, très bon. Des extraits d'opéras. Bah justement, là, je vais sûrement participer à un de ces opéras, qui est une reconstitution de sa vie, qui sera jouée, voilà, qui est organisée déjà par l'association d'Alain Guédé, qui a lui-même écrit une biographie hein, sur M. de Saint-Georges. Et cet opéra, voilà, le rôle principal, c'est un violoniste et un chanteur, voilà, qui s'alternent. Donc ça, c'est un projet assez ambitieux qui est sur de bonne voie et voilà, qui sera joué normalement aux Antilles, à Paris, prochainement.
Si qu'on sort quand on est matin là, parti en l'emmène là. Où t'es pas qu'on attend, parti si rivage là. T'es en maman, ou t'es joué, parti, t'es joué, madame, ou la tapire, tchao, tchao, tchao. Si ou paix, rentrez, 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 ouais, je know, ouais. Rentrez, 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 ouais, je know.
Alors, dans la famille, il y avait la sœur, les frères, le papa, la maman, et puis aussi l'oncle, Joe, qu'on entend ici, Romuald Grimbert-Barré, oui. avec les frères qui jouent aussi.
Exactement. En fait, c'est mon oncle Bernard Barré qui chante, qui a la guitare aussi. Et voilà, on a produit un de ses singles qui s'appelle Joe. Il a écrit beaucoup, hein, beaucoup de très belles chansons. Et ça, c'est un CD produit par notre ensemble, en fait, l'ensemble Grimbert-Barré. Voilà, ça nous a fait très plaisir de collaborer avec lui. Et là, il est en voyage à l'autre bout du monde. Peut-être pas à 20 000 km, mais plus de 10 000 en tout cas.
Alors, on retourne justement au point de départ, c'est-à-dire aux 8 000 km qui nous amènent aux États-Unis, parce qu'on a évoqué la personnalité forte de Maurizio Fuchs, votre professeur à Bloomington, Romuald Grimbert-Barré. Mais il y a aussi ces fameux, je dis fameux parce que c'est prestigieux, stages organisés à New York, dans une île, en tout cas pour ceux de l'été, la session de l'été, par Isaac Perlman, qui est une véritable star, je veux dire, que Michael Jackson. Festival de musique de chambre, vous avez eu la chance d'y participer, je crois, en 2011, dans cet environnement paradisiaque de Shutter Island. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous décrire ces 15 jours si particuliers et surtout l'aura de Perlman telle que vous l'avez perçue, vous ?
Bah, Perlman, venant de France, paraît comme quelqu'un d'assez inaccessible, hein, voilà, parce que c'est vrai que tout ce qui est déjà aux USA semble assez lointain, et comme on l'entend même dans les musiques de films de John Williams, il y a tellement de CD qui sont sortis voilà, de cet excellent violoniste. Alors, ce qui est vraiment impressionnant, oui, c'est que c'est quelqu'un de très simple. Et c'est un festival qui a lieu tous les ans, qui s'appelle Chamber Music Workshop. C'est organisé par sa femme, Toby. Et ce qui est génial, c'est qu'on fait énormément de musique de chambre et on vit vraiment avec les Perlman. C'est-à-dire qu'on fait des séances d'échiffrage quasiment tous les soirs.
Oui, la nuit.
On exactement. On déjeune, on va même dans leur maison de vacances. Enfin, c'est vraiment une atmosphère très particulière. Et voilà, aussi du fait que ce soit sur une île et qu'ils aient leur plage aussi privée. Enfin, ils ont des moyens considérables et des sponsors très connus. Voilà. Et ça a été vraiment quelque chose d'impressionnant. Et en plus, après, ils m'ont réinvité à leur festival d'hiver en Floride, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller. Et ce qui est très touchant, c'est qu'ils restent en contact avec tous ceux qui ont participé à leur festival. C'est-à-dire, quasiment tous les mois, je reçois des invitations pour des séminaires ou même des séances d'échiffrage, pour des rodages chez eux, à New York. Là, il y a quelques semaines, j'étais invité à l'anniversaire de sa femme, où ils réinvitaient voilà, tous les anciens participants du festival. Et c'est très touchant, parce que voilà, c'est des gens extrêmement reconnus, de voir qu'ils prennent autant soin d'étudiants, alors qu'ils sont abordés, je veux dire, par les plus grandes stars eux-mêmes. Et il suffit de voir voilà, qu'ils jouent très souvent à la Maison-Blanche avec Obama. Il est très actif sur Internet, hein, que ce soit sur Facebook. C'est marrant de voir ça, parce qu'il a son petit iPad et il écrit lui-même ses petits commentaires et tout. Enfin, voilà, c'est quelqu'un de très, bah, très simple et ça se ressent dans son jeu. C'est vraiment jouer avec innocence et c'est vraiment tel qu'il est.
Magnifique musique que celle de Samuel Barber, le concerto pour violon, composé en 1940, créé en 1941 avec une histoire assez particulière, commandé par un mécène de la Curtis Institute. Donc on reste vraiment dans cet univers américain qui vous caractérise aussi, Romuald Grimbert-Barré, avec cette musique magnifique du pur Barber lyrique intérieur. Mm-hmm. Et surtout Perlman, Itzhak Perlman.
Qui interprète ça magnifiquement, je trouve, un des meilleurs enregistrements qu'on puisse trouver de ce concerto. Parce que voilà, comme je vous disais, c'est quelqu'un de tellement honnête et simple et touchant, et c'est ce qui se ressent complètement dans ce mouvement.
Alors est-ce que la recherche de la stabilité du musicien que vous trouvez dans le travail, c'est-à-dire, on va l'appeler, cette stabilité technique, donne lieu ou donnerait lieu, avec tous les conditionnels, à des instabilités d'un autre ordre, c'est-à-dire affective, émotionnelle, sentimentale, personnelle. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression quand même que quand un musicien est précoce, qu'il part à 16 ans, mm-hmm. qu'il est très costaud, peut-être au-dessus de la moyenne en termes de mental, tout simplement, il y a quand même un côté assez violent et qui est souvent relativisé par les jeunes musiciens eux-mêmes en disant bah « Oui, mais moi, je savais très bien qu'à 9 ans, je voulais faire du violon. » Donc, pour moi, c'était très clair. À 16 ans, j'étais dans la fleur de l'âge.
Exactement. Il faut avoir une très grande motivation hein, parce que c'est effectivement un peu inhabituel de s'isoler. Je veux dire, moi, c'était au moins 5-6 heures par jour depuis mes 10 ans. Voilà. Et forcément, j'ai dû faire des sacrifices. J'avais peu d'amis, je pouvais difficilement quand même avoir une vie telle que les jeunes de mon âge. Mais je veux dire, comme j'étais extrêmement motivé, ça me semblait obligatoire. Et sur le point de vue relationnel, c'est sûr que je dois faire des sacrifices constamment et mes amis les plus proches sont ceux avec lesquels je...
Vous communiquez par Skype. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant.
Très souvent, parce que voilà, j'ai la chance de faire des festivals internationaux assez régulièrement ou de faire des tournées voilà, à l'étranger. Et donc, je me lie d'amitié avec des gens qui habitent des fois à l'autre bout du monde. Et c'est sûr que de rester en contact, des fois, c'est un peu compliqué. On ne se parle pas pendant des mois. Et les gens avec lesquels je me sens le plus proche sont des gens avec lesquels, justement, je peux ne pas parler pendant longtemps. Et malgré ça, garder... proximité, un effectif vraiment particulier. Et alors, c'est sûr qu'au niveau des relations, que ce soit sentimentales, c'est aussi compliqué parce que, bon, j'ai préparé des concours internationaux, j'en fais encore de temps en temps. Et quand on a des échéances comme ça, où on a des programmes tellement difficiles et longs à apprendre, et c'est comme préparer les Jeux Olympiques, on est conditionné, isolé. Pour être au meilleur, pour montrer le meilleur de soi durant ces échéances, et ben c'est vrai qu'on est obligé de mettre un peu tout ce qui est sorti de côté, parce que c'est très dur à gérer.
My friend, I'll take you everywhere. Wherever I can take my heart, I hold your hand through generations. I'll be gentle when you cry. I'll bring the sun when it's raining inside. My friend, sometimes there are no words to say, to express your distress. I'll be standing here to receive, oh, to receive your tears. I'll be your playmate. Why?
Oh,
Sur les paroles de Boris Bergman, la chanson My Friend, Face le groupe, album Radio Edit. Alors c'est vrai que My Friend, c'est l'histoire de l'amitié amoureuse, où on peut retourner ça dans tous les sens. Mais c'est vrai qu'on parle des instabilités avec vous, Romuald Grimbert-Barré. On arrive à la fin de ce parti d'Enjouer. Et c'est vrai que vous avez enregistré quelques-unes ou toutes les sonates d'Isaïe, les six sonates. Non, quelques-unes.
Quelques-unes.
Mais et c'est ce que vous avez envoyé à Isaac Perlman, justement, je crois, pour le stage.
Là, l'enregistrement que vous allez proposer, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi parce que, voilà, pour les présélections, je l'avais envoyé, effectivement. Pareil pour d'autres présélections, comme les révélations classiques de l'ami que j'ai obtenues. Voilà, j'avais utilisé cet enregistrement. Et même pour la Banque Populaire, Fondation Banque Populaire, qui me soutient depuis... Voilà, j'ai utilisé ce répertoire que j'adore et que j'interprète assez régulièrement en concert.
Alors génial, le pasticheur, c'est David Oistrakh, je crois, qui disait de Isaïe, pour lui c'était un des musiciens les plus fascinants, les plus complexes de l'histoire de la musique, je veux dire, ménétrier dans les fêtes de village, violoniste dans les églises, oui. Musicien d'orchestre, quartettiste, duettiste, soliste, compositeur, magnifique violoniste. Pour finir, Romuald Grimbert-Barré, vous voyez où dans 10 ans?
Oula, alors ça c'est la question piège pour la fin, mais justement je veux rester très ouvert là-dessus, parce que bien sûr mon but c'est d'être le meilleur de moi-même, d'aller le plus loin possible au niveau violonistique, au niveau la musique en général. Alors c'est vrai que je suis assez ambitieux, mais je veux rester ouvert, et j'adore justement mélanger que ce soit les genres, et c'est pour ça que ça me fait plaisir que vous diffusiez du rock sur France Musique, c'est quand même... assez exceptionnel, et parce que voilà, par rapport aux rencontres que je fais, je suis assez influencé, et voilà, j'aime bien jouer autant de musique antillaise que du classique, et avec mon frère Stanislas qui écrit aussi, c'est des musiques assez éclectiques qui mélangent la batterie, et bien sûr j'adore jouer en musique de chambre, en solo, et j'adore aussi donner cours. J'ai pas mal d'élèves. Bon, c'est un peu compliqué à gérer vu que je suis souvent en déplacement. Donc, ce que j'adorais, c'est tout simplement continuer ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire des concerts, des rencontres musicales, de découvrir aussi de nouveaux horizons. Et voilà, non, c'est vraiment un rêve, hein, je pense, de pouvoir vivre comme ça. Et c'est ma passion, donc ça entraîne tous les sacrifices qui vont avec.
Belle route à vous, Romuald Grimbert-Barré.
Merci beaucoup, Edouard.
Merci.
C'est
à
un
vous.
Plaisir. Thank you.
La sixième sonate d'Eugène Ysaÿe par Romuald Grimbert-Barré pour refermer son parti d'enjoué qui a été réalisé par Éric Lancien, préparé avec l'aide de Jean-René Bonissant. Avec aujourd'hui à la prise de son et mixage, Olivier Dupré. Passez un très bon dimanche soir sur France Musique. Vous avez rendez-vous avec Jérémy Rousseau puisqu'il est bientôt 22h comme si vous y étiez. Bonsoir Jérémy.